le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec deux jeunes gens, deux jeunes filles, Adrien qui a 12 ans, Elio qui en a 11, Baptistine qui a 11 ans et la plus jeune, Nayeli qui a 10 ans. Ils sont accompagnés d'Élodie Marchand, mais on ne l'écoutera pas, elle est bibliothécaire, elle les accompagne, elle les a aussi un peu préparés. Ils font partie du club de lecture L'écrit des ados de la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil. Ils sont ici comme chaque trimestre, mais chaque trimestre, c'est une équipe différente. Donc vous quatre, je pense que vous êtes les plus jeunes qui sont venus derrière ce micro. La moyenne d'âge, là, est très jeune et je vous en remercie. Alors, j'aimerais savoir... Qui c'est ? Adrien, peut-être, qui va nous dire ce que c'est que l'écrit des ados. Il faut le rappeler pour les auditeurs.
Alors, l'écrit des ados, c'est un club lecture d'une cinquantaine de jeunes à Montreuil qui partagent leur passion de la lecture. Dans ce club, on peut emprunter des livres à l'avance comparé aux autres personnes de la bibliothèque.
C'est-à-dire ce sont des livres qui ne sont pas encore achetés par la bibliothèque, qui ne sont pas présentés au public et que vous allez lire... Pour donner un avis, c'est ça ?
Oui, même s'ils sont quand même dans les librairies, mais ils ne sont pas encore à la bibliothèque.
C'est ça. Et donc, vous allez, une cinquantaine, ça fait beaucoup. Comment ça se passe ? Vous faites des débats pour décider et pour dire à la bibliothèque, voilà, nous avons fait une sélection, c'est celle-ci. Comment ça se passe ? Peut-être Baptistine ?
Tous les mois, on se retrouve à la bibliothèque, mais souvent, il n'y a pas tous les jeunes, il n'y a qu'une partie. Parce qu'ils ne sont pas tous là. Et donc, on débat des livres qu'on a lus. On dit celui-ci, je l'ai aimé. On donne nos chroniques.
Vous écrivez des chroniques littéraires, des critiques.
Oui, il y a trois sortes de chroniques. On peut les taper sur ordinateur, les faire à l'audio, donc comme à la radio, ou se faire prendre en vidéo.
Ah bon ?
Et elles sont publiées sur ActuSF.
Ah, ActuSF, donc, est partenaire de ce club des ados. Il y a longtemps que vous y êtes, toi, par exemple, Baptistine ?
Ah non, j'ai fait que quelques séances.
Ça fait pas de... Et ça te plaît ?
Oui.
Tu as envie d'y rester ?
Oui.
Qu'est-ce qui te plaît ?
Tout.
Tout ? Et toi, Nayeli, tu y es depuis quand ?
J'y suis depuis le début de l'année. Ouais.
Et donc, est-ce que ça te plaît ?
Ah oui, j'adore.
Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement ?
Déjà, ça me plaît de pouvoir se rassembler tous ensemble et de débattre sur des livres parce que moi, j'adore lire.
Et est-ce que tu aimes débattre aussi ?
Ouais, j'aime beaucoup apporter des arguments et faire des débats. Mais ce que j'aime surtout, c'est que c'est nous qui décidons d'une partie de livres de jeunesse qui vont être achetés par la bibliothèque, donc en lisant les nouveautés.
C'est donc une responsabilité, tu en es consciente. Hein ? Et ça vous effraie pas, cette responsabilité, Elio ?
Non, c'est bien parce que c'est une aventure commune avec tous les gens du club. Et le club, c'est une fois par mois. Et il y a l'office pour choisir sélectionner les livres qui vont être achetés par la bibliothèque. Donc, parfois, on les achète directement. Parfois, ils sont refusés. Et parfois, on les met dans débat. Pour en débattre.
Alors, Adrien, toi qui avais ouvert le feu, tu es donc le plus âgé, 12 ans, c'est pas très vieux. Le fait comme ça de débattre sur la littérature, est-ce que c'est rare qu'on demande à des jeunes aussi jeunes que vous, entre 10 et 12 ans, d'apporter un avis, de prendre des décisions, une responsabilité encore une fois ? Est-ce que c'est exceptionnel à votre âge ? Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on vous donne autant la parole ?
Je ne pense pas qu'il y ait énormément de lieux comme ça, peut-être à part dans d'autres bibliothèques, par-ci par-là, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait de lieux où les enfants sont mis à l'honneur et où ils parlent. Comme ça, je ne pense pas trop.
Et vous vous sentez libre dans ce club ? Comment ça se passe ? Nayeli ?
C'est vrai, on est plutôt libre parce que c'est pas comme à l'école où on nous dit tu vas lire ça et tu vas nous dire ce que t'en penses. Là, c'est si on trouve que le résumé il nous plaît, si on se sent de lire le seul livre, on lit, mais on fait des chroniques en disant vraiment ce qu'on pense, parce que il y a des gens qui vont penser qu'il faut tout le temps mettre le meilleur, parce que bah sinon les gens ils vont être déçus de notre chronique. Mais là on peut vraiment dire si bah on a aimé ce livre, on a adoré, ou alors c'est vraiment pourri.
Oui, ça peut être pourri un livre.
Ah bah oui, moi j'ai déjà lu un livre que j'ai pas aimé.
C'était lequel, disons-le.
C'était le nouveau Lucky Luke qui est sorti il y a pas longtemps.
Ouais.
Qui s'appelle Jolly Jumper ne répond plus.
C'est une bande dessinée.
Oui, c'est une bande dessinée. Et en fait, moi, je l'ai pas aimé du tout.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'était une BD qui, en fait, pour moi, n'avait aucun sens.
D'accord.
Il nous parlait d'une chose et changeait de sujet à la case d'après. Je n'ai pas trouvé les dessins très jolis non plus.
C'est intéressant, moi aussi, de voir ça. Qu'est-ce que tu aimes comme littérature ?
Alors, déjà, j'aime bien les BD, mais il y a certaines BD que j'aime pas trop. Voilà. J'aime bien les romans qui sont un peu de science-fiction.
Ça va être notre sujet d'ailleurs aujourd'hui, c'est les littératures de l'imaginaire, donc la science-fiction, l'anticipation, la littérature post-apocalyptique que moi j'ai découverte, ben oui, et qui n'a rien à voir avec les films catastrophes, je le dis pour les adultes qui y découvrent. Oui, et puis donc voilà, c'est surtout
j'aime
la science-fiction.
J'aime beaucoup les romans post-apocalyptiques, j'aime bien.
Oui.
Bon, même si des fois c'est pas joyeux du tout, mais ça dépend des fois.
Bien. Et les documentaires ?
J'aime pas trop les documentaires. J'aime surtout regarder des documentaires, ou par exemple des documentaires animaliers. J'aime bien. Pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur une guerre. C'était pas très
joli. Animalier, ça. Hein.
Oui, c'était pas très beau à voir, mais j'aime bien les documentaires.
Ça t'intéresse, hein, l'histoire de la guerre, on en reparlera. Et Elio, quelle est la littérature qui te passionne ?
Moi aussi, je pense la science-fiction et le fantastique. Le post-apocalyptique, je viens de découvrir aussi ce que c'était.
Alors tu vas nous dire ce que c'est, tiens. Parce qu'on est plein à pas savoir ce que c'est. Moi, j'ai découvert grâce à votre club de lecture.
C'est un genre de littérature de l'imaginaire. Si ça se passe sur Terre ou ailleurs, mais après une catastrophe
totale, c'est-à-dire qu'on a détruit une civilisation, un monde, quoi, c'est ça, hein,
oui.
L'apocalypse. Ouais. Voilà. Donc tu aimes cette littérature-là. Quoi d'autre encore ? Le théâtre, la poésie, vous en lisez ?
Oui.
Oui ?
Je lis du théâtre.
Oui. Toi, tu lis du théâtre. Des romans plus classiques.
Non.
Bon, bah écoute, on est là pour parler de ça. Baptistine.
Alors moi, au contraire de Nayeli, j'aime pas du tout la science-fiction et le post-apocalyptique. Enfin, moi, je préfère plus l'imaginaire, au sens c'est vraiment un autre monde et c'est vraiment des choses qu'on peut découvrir tout à fait. Les BD, j'aime un peu, pas trop. Mais moi, je préfère les gros romans qui parlent vraiment de quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire.
Par exemple, avec de la magie, fantasy plutôt.
Oui. Hein.
Et alors, Adrien ?
Alors moi, j'aime à peu près de tout, même si j'avoue, je suis quand même un petit peu moins SF.
Science-fiction,
oui.
Je traduis. Ouais.
Je suis surtout plutôt fantasy et tout ce qui touche aux apocalypses.
Alors c'est amusant, hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est un genre générationnel. Enfin, je sais pas, je regarde autour de moi, mais moi, je sais pas, j'en ai pas lu, pour tout vous dire. Le plus que j'avais lu de science-fiction à votre âge, que j'allais lire, c'était Jules Verne. Vous connaissez Jules Verne ?
Oui.
Oui, quand même. Vous aimez ?
Moi, j'aime pas trop. J'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours. En fait, déjà, c'était les trucs avec des noms super compliqués des gens. Je n'ai pas trop accroché, moi.
Ouais. Bon,
c'est pas très intéressant.
C'est pas très intéressant. Hein. Les garçons, vous n'avez pas lu ça.
Si,
tu as lu, Adrien ?
Oui, en fait, après, par exemple, pour le Tour du Monde en 80 jours, en fait, il faut plutôt essayer de se mettre du point de vue de l'époque où, en fait, ils ne connaissaient pas du tout. Et du coup, ils essayaient de s'imaginer. plein de trucs. Par exemple, même un canon qui permet d'aller sur la Lune.
Et oui, tu as raison. Hein, il faut recontextualiser le moment de l'écriture de ces romans. Alors, j'aimerais que vous me disiez si vous avez en tête ou amené, je vois que Nayeli a amené un livre que vous voudriez faire partager vraiment à quelqu'un en disant, voilà, ça, est-ce que vous le faites d'ailleurs, ça? Ça, maman, papa, mon frère, ma soeur, mon voisin, un copain, ça, il faut que tu le lises. Parce que, est-ce que ça vous arrive de faire ça? Ouais,
ouais.
Alors, vas-y, Baptistine.
J'aimerais que le monde entier lise mon livre préféré.
Ah, c'est le monde entier, carrément.
Ah oui,
alors,
non,
vas-y,
il
faut que tu nous convainques.
C'est donc La quête des Willen 1, et c'est D'un monde à l'autre, de Pierre Bottero. L'éditeur, c'est Rajo. Et donc, c'est l'histoire d'une adolescente qui est surdouée, mais qui a été adoptée et qui a une vie complètement nulle. Ses parents adoptifs l'aiment pas du tout. Et un jour, alors qu'elle va se faire écraser par un camion, elle va passer dans un autre monde, et elle va découvrir plein de choses. Elle va découvrir que ses origines viennent de là. Et c'est vraiment génial et j'adore la façon d'écrire de Pierre Bottero. C'est vraiment un livre complètement incroyable avec plein d'émotions et c'est vraiment très très bien.
Et quand tu es arrivée à la fin, est-ce que tu étais malheureuse de te dire oh, « il est fini ?»
Oui, mais en fait ça, c'était plein de trilogies de la même histoire. Et avec y a la trilogie du coup des quêtes des Willan, ensuite il y a le monde des Willan, ensuite il y a Elana qui est un personnage dedans donc pour approfondir sa vie.
Oui, donc,
du coup, il y en a toujours un peu, mais bon, je les ai lus et je les relis encore maintenant.
Qu'est-ce que ça t'apprend? Est-ce que ça t'apprend des choses? Est-ce que ça te fait rêver à une vie?
Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait beaucoup rêver d'être dans cet endroit. C'est vraiment un endroit magnifique, très bien décrit, avec une civilisation totalement inconnue.
Et qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette civilisation, par rapport à la nôtre?
Par exemple, il y a la guerre, et puis il y a plein de créatures étranges. Et puis, il y a toujours des sociétés un peu secrètes. Et puis, surtout, ce qui m'a frappée, c'est qu'à un moment, j'avais lu un passage de mon livre à maman qui me faisait rire. Et en fait, c'est à force de lire ces livres, on s'en est rendu compte que quand on voit... elle sortit son poignard et l'égorgea, ça devient normal. Et dans un contexte qui ne fait pas peur du tout. Mmh. C'est l'histoire qui est magique et du coup, ça nous transforme.
Ça rassure par rapport à la mort?
Ça ne parle pas vraiment de la mort, mais en gros, comme c'est la guerre, ils se tuent un peu tous. Mais en même temps, ça reste une histoire bien et qui ne parle pas trop non plus de la guerre.
Ok, donc il y a un peu de ce qu'on voit autour de nous,
oui,
dans le monde, et pas. Adrien, tu me parlerais de... Mais tu nous as donné envie de le lire, je te le dis tout de suite, Baptistine, ça va être peut-être le livre de mes vacances. Adrien.
J'aimerais bien qu'il y ait quand même aussi pas mal de monde qui lise la série, les comics The Walking Dead. Mm-hmm. Donc c'est une série déjà, qui a été à la base faite par... Robert Kirkman et Tony Moore, donc Tony Moore dessinateur. Et puis après, Charlie Adler l'a remplacé à partir du tome 2.
C'est une BD ou un roman
graphique,
comme on dit aujourd'hui?
Un comics.
Un comics, ok.
C'est l'histoire de Rick, un ancien policier, qui se réveille dans un coma dans un monde totalement infesté de zombies. Et donc du coup, il est totalement perdu, totalement déboussolé. Il essaie du coup de retrouver des proches, des survivants. Et puis après, il va tomber sur d'autres survivants.
Est-ce que tu t'identifies à un personnage, là?
Oui, quand même un peu.
Oui. Et lequel?
J'aime bien Carl dans The Walking Dead.
Alors, c'est le commissaire?
Non, Carl, en fait, ça va être le fils de Rick, le héros.
D'accord.
C'est son fils, au début, il est quand même assez jeune. Et puis, après, au fur et à mesure, on le voit évoluer. Et puis, en fait, c'est lui qui va le plus changer au fur et à mesure.
Donc, tu aimes les personnages qui évoluent. C'est important, ça.
Oui.
Ouais. Et tu t'identifies à lui parce que tu as un fils aussi. Est-ce que, par exemple, ce qu'il y a de l'ordre de l'origine, parce que c'est souvent ça, on recherche les origines, on découvre que celles qu'on croyait n'étaient pas les bonnes, etc. Est-ce que ce sont des thèmes qui, à 12 ans... sont des thèmes importants?
Non, je pense pas quand même à 12 ans. Enfin, je pense... Je me suis pas vraiment posé ces questions-là.
Non. Donc, oui, peut-être, Baptistine.
Moi, en fait, je pense qu'au contraire, c'est un thème qui est souvent à 12 ans parce que mon grand frère a 12 ans et il lit que des trucs comme ça.
Ah oui.
Donc, et en fait, il lit au moins 6 livres par semaine et c'est que des trucs comme ça.
Et tu penses que c'est lié à cette question de la quête des origines, des secrets
de
famille?
Oui, il aime beaucoup, beaucoup ces livres-là. Il l'a dit même quand il a fait la chronique d'un des livres, qu'il aime beaucoup les histoires d'héritage, d'origine, de tout ça. Vraiment, il a 12 ans et il aime énormément ces thèmes.
Par exemple, vous avez imaginé que vos parents ne soient pas vos parents, par exemple, et que vous ne le sachiez pas?
Oui. Quand j'étais petite, j'étais là, j'espère que mes parents, ce n'est pas mes vrais parents.
Ah
qu'un jour, j'irai les chercher dans d'autres pays, j'irai les retrouver. Moi, quand j'étais petite, je rêvais que je sois adoptée, en fait.
Ah oui?
Ouais.
Ah, c'est drôle,
mais
ça.
Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, je rêvais, en fait, que mes parents soient morts, en fait.
Ah oui, carrément.
Je rêvais que mes parents étaient morts et que j'allais retrouver d'autres membres de ma famille. Mais en fait, quand je me rends compte maintenant, mais c'est horrible de dire ça.
Oui. Et en même temps, est-ce que ça rassure? Parce que la mort est toujours possible. Enfin, vous n'arrêtez pas de lire des livres où ça n'arrête pas de mourir. Et parfois, de manière extrêmement violente.
C'est sûr.
Alors, est-ce que c'est une manière de se rassurer? De se dire, mais après tout... Peut-être que ça peut être comme dans les livres. C'est pas. Et toi, Elio, sur la question de la mort, des origines?
Moi aussi, je lis ce genre de trucs, de livres. Parce que, par exemple, une fois, j'ai lu un livre qui commence dans un pensionnat où les personnes ne connaissent pas leurs origines ni le nom de leurs parents. Et ils découvrent... que leurs parents ont essayé d'arrêter une organisation diabolique et ils comprennent et du coup ils s'enfuient de leur pensionnat pour continuer ce qu'ont abandonné leurs parents.
Donc on est bien quand même dans ces thèmes. Je me souviens Harry Potter, que je n'ai pas lu, c'est ça aussi. Est-ce que ça vous plaît aujourd'hui Harry Potter? Parce que j'ai l'impression qu'il est dépassé. Ah oui.
Ah oui.
Enfin, ça va encore. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui l'aiment. Il n'est pas dépassé.
Il n'est pas dépassé, ça reste.
Moi, j'adore Harry Potter.
Ah ouais. Je pourrais le relire plusieurs fois encore. J'ai un ami... Il se prend carrément pour Harry Potter.
Ah oui, ça c'est un peu embêtant.
Il a acheté les lunettes d'Harry Potter, il a la baguette d'Harry Potter, il adore.
Et toi par exemple, tu portes la cravate, c'est par rapport à un personnage de science-fiction ou...
Pas du tout.
Non, c'est ton goût personnel.
Oui.
Ah ouais. Est-ce que ça vous donne une liberté justement d'être ce que vous êtes, comme vous avez envie d'être, en dehors des modes? Est-ce que vous trouvez cette liberté dans la littérature en général? Est-ce que ça renforce la personnalité de lire? Est-ce que ça rassure? Non?
Peut-être. Oui, moi, j'aime beaucoup lire et j'ai l'impression d'aller un peu dans un autre monde et d'avoir un secret que je peux garder qu'à moi. Et par exemple, quand je suis en colère ou quand je suis triste, je me dis, au moins, je peux lire et comme ça, j'oublierai tout et au moins, j'aurai mon petit monde à moi.
Après, il faut peut-être pas s'y enfermer, mais il
n'y
a pas de risque.
Non, juste quand j'ai des émotions fortes et que je ne peux plus vivre avec les autres, pour me faire une pause, je lis et du coup, ça me fait... je m'échappe un peu.
Ça a cette fonction pour vous autres? Oui, pour toi aussi.
Moi, par exemple, quand elle disait, Baptistine, quand je peux vivre avec les autres, je m'enferme pour lire, c'est pareil. Moi, quand mon père m'envoie dans ma chambre... en fait, c'est plutôt un plaisir parce que du coup, je lis.
Je ne vais pas lui dire alors parce que... Alors, tu as devant toi
Jonah. Jonah. C'est un livre de Ty Markleton. La première de couverture est illustrée par sa femme, Rebecca D'Outremer. Et donc, c'est aux éditions Didier Jeunesse. Donc là, j'ai devant moi le tome 1, Les Sentinelles. Et donc, il y a 6 tomes. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Jonah, qui, dès sa naissance, n'a pas de main. Ses bras sont arrêtés au poignet. Donc, au moment de sa naissance, sa mère décède. Et donc, il se retrouve dans un orphelinat, tout seul. Bon, pas tout seul, vu qu'il y a plein d'autres enfants, mais sans main. Mais il arrive très bien, il grandit. Jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, il arrive à se débrouiller sans ses mains. Il se fait des amis. Mais il se trouve que dans la tête de Jonah, c'est différent dans sa tête. Il y a deux esprits un peu qui s'occupent de lui et qui en fait peuvent se balader de tête en tête d'enfants. Et du coup, Jonah, il est très spécial. Et donc...
Il a des pouvoirs, en fait, c'est
ça. En fait, c'est pas vraiment des pouvoirs, parce que... en fait, ces petits êtres dans sa tête, en fait, peuvent se balader dans la tête de quelqu'un. Jonah est en face de quelqu'un, d'un animal. Ils peuvent même aller dans la tête d'une mouche, par exemple. Et avec le cercle des connaissances de l'être vivant, ben, ils peuvent télécharger des données.
D'accord.
Des données, je dis télécharger des données, mais c'est pas informatiquement. Et les redonner à Jonah.
D'accord.
Ce qui fait que Jonah...
il peut voir comme une mouche.
Il peut... Non, pas forcément comme ça. Mais par exemple, ils vont à la tête d'un médecin. Et puis, en 3 secondes, Jonah, il sait faire une opération du cœur en 3 minutes.
Ouais.
Donc...
Je comprends que ça soit merveilleux.
Et c'est formidable, j'adore. Ah
ouais. Bon, bah on va essayer de le lire. Alors, qui n'a pas parlé de son livre ? Toi, Elio ?
Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement, le post-apocalyptique. Et quelqu'un m'a conseillé la série U4. Mmh. Et j'ai commencé par Yanis. Donc, c'est un garçon qui est dans un monde où un virus U4 s'est développé. C'est... un virus qui tue, enfin, qui décime toute la population, mais les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas morts parce qu'ils ont été vaccinés sans le savoir. Et donc, ils jouent à un jeu vidéo et il y a le maître du jeu en fait circuler un message comme quoi il y a un retour dans le temps possible le 24 décembre à Paris sous la plus vieille tour de Paris.
D'accord.
Une tour d'horloge.
Donc il y a une superposition des histoires, aussi, des périodes, des ères historiques. Hein ? Il y a ça ? Donc c'est fascinant. Tu l'as fini là ? Ça y est, tu l'as lu ?
Oui.
On ne dit pas la fin. Hein. Oui ?
Et moi j'ai lu un autre livre de la même série U4. C'est une autre personnage, donc Cory Duen. Elle joue au même jeu vidéo et elle reçoit le même message. Sauf que, en fait, pour les quatre, il y a 4 livres dans U4 de 4 personnages différents qui vont se retrouver à la fin.
D'accord.
Et c'est pas du tout la même histoire, voilà. En fait.
Alors, est-ce que tu as lu les 4 ? Non, pas encore.
J'en ai lu que 2 des 4.
Et tu as envie de continuer ? Ouais, ben les séries, c'est fait pour ça. Alors, ça avance. Alors, avant de finir, quand même. Toutes ces histoires post-apocalyptiques, puisque ça a l'air de vous fasciner, et de science-fiction, même s'il y a d'autres genres, post-apocalyptique, ça veut dire qu'une civilisation, un monde, une planète, est détruite. Et qu'est-ce que vous pensez de notre monde ? Est-ce que vous pensez que notre civilisation, notre société, notre monde peut être détruit ? Est-ce que vous pensez qu'il est... vous y êtes très attachés ? Est-ce que vous pensez que ça serait bien d'en inventer un autre ? Alors très vite, chacun va me dire, dans sa propre imagination ou ses propres désirs profonds, qu'est-ce que vous aimeriez si vous deviez écrire ou inventer un autre monde après notre société, d'abord, est-ce que vous la feriez mourir et qu'est-ce que vous voudriez à la place ?
Oui, mais comme vous avez dit, si le monde pouvait être détruit, en fait, moi, je pense que si le monde se détruisait, ça sera à cause de la pollution.
Donc tu crois que c'est une possibilité ?
Si on continue à fabriquer plein de trucs qui servent à rien, plein d'usines qui servent à rien, à gaspiller plein d'argent... À faire des voitures et des voitures toujours aussi compliquées, de plus en plus compliquées, qui gaspillent, qui font de plus en plus de fumée, de plus en plus de pollution. À un moment, on va finir par...
Et ton monde idéal, il serait sans voiture sans...
Moi, mon monde idéal, je sais que c'est pas vraiment possible, mais ce serait un monde plus écologique parce que avec des vélos, pas des voitures, des vélos, des vélos qui transportent des carrioles pour pouvoir aller à plusieurs, des bâtiments, faire le strict nécessaire, par exemple, pas faire 3527 marques de chaussures, de voitures.
Je vois, oui, d'accord. Mais il y a tout un courant qui imagine ça. Et toi, Elio ?
Pareil, ce serait tout ce qui est mécanique, les usines soient détruites.
Ah oui, carrément, là.
Et du coup, on serait obligé de recommencer à zéro. Mmh. Mais sans qu'on n'ait pas les possibilités de recréer les usines.
Alors, il y a un film qui s'appelle L'An 01. Vous devriez le regarder, ça. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et toi, très vite, Baptistine ?
Moi, je pense que le monde n'a absolument pas besoin d'être détruit. Je pense qu'il est bien comme ça, même s'il y a énormément de problèmes. Moi, personnellement, quand je lis, bah, du coup, ça me fait comme un autre univers. Mais en même temps, je n'ai pas envie de changer d'univers parce que je pense que okay. Le monde, il est très bien.
Et toi, Adrien ?
Je pense plutôt si c'est possible. Enfin, je pense aussi ce serait moins la pollution qui est sur le monde, mais ce serait plutôt, par exemple, une guerre nucléaire. Parce que même en plus, dans beaucoup de livres, par exemple, post-apocalyptique, il peut y avoir, par exemple, l'apocalypse, si on la connaît, par exemple, c'était les guerres nucléaires, voilà. Mais je pense quand même la pollution, c'est quand même un problème. Mais je pense aussi les guerres, ça peut être aussi encore plus problématique.
Je sais que les guerres vous soucient beaucoup. J'en avais discuté avec Nayeli aussi, qui pensait à Napoléon. Enfin, vous faites des liens avec ce que vous lisez, ce que vous apprenez, ce que vous voyez autour de vous. Bravo, merci. Alors, j'espère qu'on aura convaincu les auditeurs et les auditrices de lire de la littérature post-apocalyptique. En tout cas, apparemment, c'est très générationnel. Là, si vous voulez suivre les ados, il faut quand même qu'on s'y mette. Je crois qu'à Montreuil, il se passe quelque chose le vendredi 19 mai à la bibliothèque. Qui veut en parler ? Qu'est-ce qui se passe ce soir-là ?
Eh bien, le vendredi 19 mai, il y a une grande fête, la fête des ados, soirée ados. Et on sera beaucoup d'adolescents qui vont se rassembler à la bibliothèque. Donc, il y aura de la musique, il y aura des trucs à manger.
Ah oui.
Ça sera une grande fête. Et on va présenter les ateliers qu'on avait faits avec plein de personnes de l'extérieur qui.
Oui, des écrivains,
oui,
des
écrivains,
artistes.
Des graphistes. Mmh. Et plein de personnes. Et donc, ouais. On va présenter les projets.
Voilà, tous les projets. Vous y serez.
Moi, j'y serai au début.
Ah, au début.
Au début, parce que je ne vais pas pouvoir rester non plus très tard. Ouais.
Ouais. Mais vous allez prendre la parole sur scène, par exemple, vous, à l'écrit des ados ?
Oui, on va faire un atelier.
Vous allez faire un atelier.
Ce n'est pas encore exactement, mais c'est ce qu'on va faire.
Et puis, il y aura une exposition qui sera tout l'été, un peu à l'extérieur même de la bibliothèque, avec des grandes banderoles, etc., sur ce thème « Changer le monde ?» point d'interrogation grave, ce qui était une réponse d'un de vos camarades de la bibliothèque, Robert Desnos, et on pourra lire toutes les paroles des adolescents que vous êtes, parce que je crois que vous avez beaucoup à nous dire de vos rêves, de vos peurs, de votre imaginaire et de vos désirs. Et peut-être ça va être vous, cette génération U4, là, qui va, des 15 ans, qui sont sauvés et qui vont créer l'autre monde, si jamais il y avait une apocalypse. Bravo, merci d'être venu. Le temps buissonnier, c'est fini. Malheureusement, vous pouvez télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr. Et c'est toute une équipe, vous savez, pour faire cette émission. Aline Payet, c'est moi qui vous parle. Franck Guilin, qui est de l'autre côté et qui réalise. Annie Comier, qui est le grand chef partout et qui prépare. Et à la technique aujourd'hui, on avait le grand maître du son, Alain Joubert. Mais oui, on est tous des héros post-apocalyptiques, non, c'est ça. Et puis Elodie, là-bas, Elodie Marchand de la bibliothèque, qui vous a accompagné. Eh bien, merci Adrien, Elio, Baptiste et Nayeli. Et je vous laisse en compagnie. Ça vous fait rire, hein ? J'ai dit une bêtise. Hein ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Allez, dis la bêtise.
Vous avez dit Baptiste.
Et c'est pas Baptiste.
Baptistine,
pardon, excuse-moi. Tu vois. Ben ouais, ça m'arrive de dire des bêtises. Il est temps que j'aille me recoucher. Mais vous, écoutez le premier journal de France Culture avant de vous endormir. Merci à tous, vous êtes formidables.